Chapitre 16. Diego. Nous sommes le 10 avril 2013 et j'ai 27 ans. Depuis 3 ans, je mène de front mon doctorat en biomécanique à Harvard et une activité de mannequin qui me permet de financer mes études. Ne roulant pas sur l'or, l'argent est venu plus tard, j'ai pris la pause pour différentes marques, dont un parfum espagnol bon marché qui finance ma dernière année au sein de cette prestigieuse mais coûteuse institution. J'ai soutenu ma thèse l'année dernière et suis officiellement docteur de l'Université d'Harvard. J'ai une petite amie prénommée Grace, ce qui, associé à mon quotidien au cœur de ce campus mythique, donne à ma vie des allures cinématographiques, une sorte de Will Hunting sans mélodrame. Moi qui ne crois pas en Dieu, mais qui crois au destin, je me dis souvent que j'ai été bien servi. Alors, puisque je ne doute pas de ma bonne étoile, j'ai décidé de donner une coloration un peu différente à mon cursus universitaire. Unique, en tout cas. Depuis la sélection 2008 de l'Agence spatiale européenne, je me suis prise à rêver de ce parcours d'exception. Aussi me suis-je inscrite à un dernier semestre à Harvard. Depuis septembre, j'applique mes connaissances de biomécanique à la conception de bras robotisés. Le genre de compétences additionnelles qui pourraient servir une candidature si l'ESA venait à recruter de nouveaux astronautes. J'ai prévu de rentrer en Espagne afin d'y passer quelques semaines en famille. Mon avion doit décoller le 13 avril, mais un surbooking important déclenche un appel de la compagnie qui m'offre un remboursement de 50% de la valeur du billet si j'accepte d'être basculé sur un vol partant 5 jours plus tard. Je peux attendre, ce rabais est une aubaine que je saisis. 15 avril 2013, 14h30. Je cours. Je cours parce que je dois aller au bout. Je souffre car je ne suis pas préparée, en tout cas pas assez, mais j'ai trop d'orgueil pour abandonner à ce stade. Apprenant que finalement je serai là aujourd'hui, mon ami Ethan m'a tendu hier le maillot qu'il avait réglé pour moi en me lançant hilar. Tu pensais pouvoir te défiler, mais tu vas bien devoir t'y coller. Ayant eu beaucoup de travail au labo ces dernières semaines, je n'ai pas été très assidue dans la préparation physique. Alors j'ai vite senti que je ne pourrais pas suivre le rythme d'Ethan. Après une 20aine de kilomètres, je lui ai ordonné de finir sa course sans moi, alors qu'il a sans doute passé la ligne d'arrivée depuis une bonne demi-heure, tandis que j'attaque seulement la dernière ligne droite. Je suis en train de cracher mes poumons, mais je sais que dans une telle épreuve sportive, l'important, c'est le mental. La détermination. J'en ai à revendre. Il fait beau, pas trop chaud, les conditions sont idéales, impossible d'abandonner. Et puis le marathon de Boston, cette ville où je vis depuis presque 4 ans, est l'un des événements de running les plus prestigieux du monde. Plus de 30 000 participants, 500 000 spectateurs chaque année. En être finisher est une grande satisfaction. Plus que 600 mètres et je pourrais m'écrouler, épuiser, mais avec le sourire de celui qui est allé au-delà de lui-même. Lorsque la première explosion retentit, je ne comprends pas ce qui se passe. Ou plutôt, je ne comprends que trop bien. Devant moi, de la poussière, des hurlements de terreur, des pleurs, des gens qui ne savent plus dans quelle direction partir, qui se bousculent, d'autres qui restent figés, incapables de bouger. Je fais partie de cette deuxième catégorie. Pendant un court instant qui me semble une éternité, je ne sais pas quoi faire. J'hésite entre fuir à toute vitesse ou me précipiter vers le lieu de la déflagration pour porter secours aux blessés, que j'imagine nombreux étant donné l'épaisseur de la fumée et la densité des cris. À ce stade de ma réflexion, je ne vais pas au-delà du terme « blessé ». 13 petites secondes plus tard, le souffle de la deuxième explosion me terrasse. Je suis projeté loin, très loin. Aussi étrange que cela puisse paraître, et malgré le choc sur ma tête, je ne perds pas connaissance. La première chose à laquelle je pense, c'est que je suis peut-être devenu sourd. La déflagration était tellement forte, tellement proche, j'ai l'impression d'avoir les oreilles enveloppées d'une ouate épaisse. Et puis je comprends que c'est sûrement un mécanisme de protection des tympans après un impact sonore aussi violent. Je reprends peu à peu mes esprits et me redresse sur mes avant-bras. Alors j'entends les appels à l'aide, les sirènes qui approchent. Puis je sens la brûlure sur mon dos. Je prends conscience que mon corps a raclé le bitume sur une dizaine de mètres. Je n'ose pas imaginer la trace laissée, et pourtant je me la représente déjà très bien. Je ne panique pas, je suis en état de sidération. Étonnamment calme. Je suis maintenant conscient, alors je remercie ma bonne étoile de m'avoir épargné. Mon visage n'a rien, ma tête n'a pas grand-chose. Je pense, tu as de la chance de n'avoir que cette brûlure dans le dos. Cette bonne étoile, toujours au-dessus de ma tête. J'ai le temps de me dire tout ça. Étrange protection, cette façon qu'a le cerveau de se préserver en retardant l'apparition des émotions les plus extrêmes. Comme s'il décidait d'accorder un dernier répit, une dernière accalmie, quelques secondes de normalité avant de plonger dans le chaos. Je me redresse encore et j'essaie de regarder autour de moi. Le nuage dense de poussière me fait pleurer et tousser et m'empêche de constater, pour l'instant, la transformation de ce lieu de joie et de fête en paysage de fin du monde. Et puis soudain, je vois la flaque sombre qui s'étend sous mon corps. Je sens une odeur de sang et de cheveux brûlés aussi. Je passe la main sur mon crâne, rien de grave a priori. Je ne sais pas encore que cette odeur anodine, le genre que l'on sent dans un salon de coiffure quand les sèche-cheveux tournent à plein régime, cette odeur me donnera envie de vomir chaque fois que j'y serai confrontée. Je vois la flaque, je sens les odeurs, mais je ne les comprends pas. Ce n'est que dans les yeux de l'homme qui me porte secours que je perçois qu'il me manque une information importante. Une information que mon cerveau a éludée pour quelques secondes, une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas. Je n'oublierai jamais son regard, à la fois désolé et terrifié. Et puis sa ceinture, enlevée à toute vitesse et passée autour de ma cuisse gauche. C'est à ce moment-là que mes yeux se posent sur la partie inférieure de mon corps. Et soudain, la douleur, puissante, innommable. Je pousse un hurlement sourd, puis un autre, et un autre encore. J'ai l'impression que des câbles électriques me transpercent de part en part. Je panique, je suffoque, je m'accroche à cet homme, le suppliant de ne pas me quitter, de me sauver. L'inconnu reste avec moi, tente de me calmer. J'apprendrai plus tard qu'il se nomme Andrew, qu'il a 50 ans, qu'il est opticien et qu'il s'apprêtait à repartir après avoir soutenu la course de son meilleur ami, qui n'a pas été blessé. Cet homme qui s'assure que je reste éveillée, tout en scandant des « help » réguliers, malgré la poussière et le bruit. Cette main dans la mienne, cette main qui ne me lâche pas. Et puis ces paroles à voix basse. « I promise you're gonna be okay ». Je les connais, ces paroles. Je les ai déjà entendues dans les films. C'est le genre de choses qu'on affirme à quelqu'un en train de mourir. La douleur est si forte que je préférerais dormir, mais mon inconnu m'en empêche, alors je lui demande « Am I dying ?»« No, you're not. Dying is not an option. What's your name ?»« My name is Diego. »« Hold on, Diego. Stay with me. I promise you're gonna be okay. » À cet instant précis, je ne sais pas encore que cet homme, cet inconnu qui s'est précipité pour m'aider sans penser à sa propre sécurité, cet homme vient de me sauver la vie. Sans lui, sans le garrot qui a permis de limiter considérablement la perte de sang, je serais mort en quelques minutes. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. À cet instant, j'ai pris conscience de l'importance de ma blessure. Je me sens de plus en plus faible, la douleur m'anéantit. Je pense qu'au bout du compte, je vais sans doute mourir. Et j'ai besoin d'entendre la voix de mes parents. Cela fait plusieurs minutes que je réclame à Andrew son téléphone. Il me répète que la priorité est de joindre les secours et de me sauver. Que je pourrai appeler mes parents plus tard et que ça m'en fera des choses à raconter à mes petits-enfants. Lorsque les secours arrivent, Andrew n'est pas autorisé à rester à mes côtés. Alors il me tend son téléphone et me dit « Tu n'as pas intérêt à te laisser aller parce que je compte bien le récupérer. J'ai toutes mes photos coquines dedans, tu n'as pas le choix. » Il parvient à m'arracher un sourire. Puis il me serre dans ses bras. Je n'ai pas le temps de lui dire merci, déjà les portes se referment. Dans le camion, les pompiers me demandent d'évaluer ma douleur sur une échelle de 0 à 10. Je réponds 500. L'un d'eux m'administre un cocktail de morphine et d'analgésique, tandis qu'un autre installe une poche de sang. Alors je me mets à les supplier de sauver ma jambe. Je leur dis que je suis sportif, que je ne peux pas perdre ma jambe, c'est impossible. Mais eux savent que je l'ai déjà perdue. Je le vois dans leurs yeux. Et je leur en veux pour ça. Je voudrais qu'ils me mentent, qu'ils me disent que d'ici quelques jours, je sauterai à pieds joints dans un champ de fleurs. Inventez-moi un beau mensonge. La réalité est trop dure à encaisser. Je deviens hystérique. Ils tentent de me rassurer, me disent que la douleur va bientôt être atténuée grâce à ce qu'ils viennent de m'injecter, que je dois arrêter de hurler pour qu'ils puissent continuer à m'aider. J'arrête de hurler et je me mets instantanément à pleurer. Je dois appeler mes parents, il le faut. Je sens mon corps partir. Les pompiers se jettent des regards remplis de doute et puis l'un d'eux hoche la tête et me passe le portable d'Andrew. Je parviens tant bien que mal à gérer ma douleur et je compose le numéro de ma mère. Il est 21h en Espagne, mes parents sont sûrement à la maison.
Diego, mon chéri, je suis avec papa sur l'autoroute, on peut te rappeler dans 10 minutes.
Entendre la voix de ma mère est une grande émotion. Je m'apprête à tout lui livrer dans un sanglot, quand soudain je prends conscience de la phrase qu'elle vient de prononcer. Je ne peux en aucun cas lui annoncer cela alors qu'elle est au volant. J'ai la présence d'esprit de lui demander de se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle me dit que c'est illégal de se garer sur l'autoroute pour téléphoner.
Tu as une voix bizarre, qu'est-ce qui se passe?
Je m'entends encore lui répondre cette phrase surréaliste. Rien de grave, maman, ne t'inquiète pas. Mais rappelle-moi immédiatement à ce numéro, s'il te plaît. Quelques secondes plus tard, elle rappelle, et j'entends mon père à ses côtés. La morphine commence à agir, j'ai la voix pâteuse, mais j'essaie de leur expliquer le plus calmement possible. Il y a eu un attentat à Boston pendant le marathon. Un silence à l'autre bout, et puis la voix de mon père.
Diego, si c'est une blague, c'est pas drôle du tout.
Alors j'éclate en sanglots. Maman, papa, je voulais entendre votre voix. J'ai perdu beaucoup de sang. Je crois que je ne sais pas combien de temps. Et ma jambe, je ne sais pas. Mais je voulais vous dire que je vous aime. Un silence encore. Mes parents encaissent le choc. Comprennent que je ne plaisante pas. Qu'il est impossible que je puisse plaisanter avec un sujet comme celui-ci. Alors ma mère reprend la parole.
Diego, où es-tu?
Dans l'ambulance, j'arrive à l'hôpital.
Diego, écoute-moi bien. Tu vas te battre, tu m'entends? Tu as des milliers de belles choses à accomplir. Alors tu vas arriver à l'hôpital et tu vas leur dire que toi, Diego Ernesto Estrella, fils de Maria Magdalena Santa Maria et Alberto Santiago Estrella, tu vas te battre. Et qu'ils ont intérêt à prendre soin de toi, sinon ta mère qui t'aime à la folie va venir leur botter les fesses comme jamais.
Entre deux sanglots, j'imagine ma mère, une petite femme énergique et volontaire, mais mesurant 30 cm de moins que moi, en train de botter les fesses à de grands pontes. Et je ne sais pas si c'est cette image, la morphine ou les nerfs qui lâchent, mais je me mets à rire. Les pompiers me sourient, me disent que nous arrivons, que je vais devoir raccrocher. C'est mon père qui conclut la conversation.
On saute dans le premier avion et on t'apporte ton touron préféré, celui avec les amandes et le miel dégoulinant partout. Tiens bon, minigno.
Nous atteignons l'hôpital en un temps record. Dans notre malheur, nous autres, les 264 personnes blessées dans l'attentat, avons pu atteindre très vite les hôpitaux, car les routes principales de la ville étaient fermées à la circulation pour permettre le passage du marathon. 3 personnes n'ont pas eu cette chance. J'ai tout de suite été pris en charge et puis on m'a endormi. Les opérations ont été particulièrement longues. La sédation également. Je me suis réveillée près de 24 heures plus tard. Mon ami Ethan était à mes côtés. C'est à lui qu'est revenue la lourde charge de m'apprendre que ma jambe n'existait plus. Au moment de m'endormir la veille, juste avant l'opération, j'avais adressé au ciel une prière muette pour ne pas perdre ma jambe. Apparemment, ma bonne étoile avait décidé de se faire la malle. J'ai observé Ethan longuement, mais je n'ai pas pleuré. J'étais comme résignée, du moins je le pensais. La chirurgienne m'a expliqué que dans l'épreuve que je traversais, Avoir conservé l'articulation du genou intacte était une chance. Que la marche et la rééducation en seraient facilitées. Et puis elle a ajouté ces mots dont je ne percevais alors pas l'importance, mais qui seraient précieux dans les moments de doute. Monsieur Estrella, il est essentiel pour moi que vous sachiez que j'ai tout tenté pour sauver votre pied, votre cheville et le bas de votre jambe. Si j'avais pu faire autrement, croyez-moi, je l'aurais fait. Le chemin sera difficile, je ne vais pas vous mentir. Mais vous êtes jeune, vous êtes sportif, vous êtes volontaire, vous allez y arriver. Alors quand vous courrez votre prochain marathon, je n'ai pas dit si, j'ai bien dit quand. Je veux être présente pour vous encourager. Lorsque mes parents sont arrivés, j'ai ressenti un grand soulagement et une grande douleur. La douleur physique, bien sûr, mais aussi la douleur intime, la sournoise, celle qui s'insinue dans les moindres replis du cerveau et dans les yeux des autres, celle qui envahit, qui murmure « Tu es handicapé, tes rêves sont derrière toi, désormais ce ne sera plus jamais la vraie vie, pleine et entière. » 2 semaines après l'attentat, je commençais le long processus de rééducation. Puis au bout d'un mois, la chirurgienne ôtait les fils de ma cicatrice et je retournais à Barcelone. Mon frère et ma sœur ont été d'une grande aide. Ils m'ont évité de m'apitoyer, de me laisser couler lorsque j'avais l'impression de me noyer. Après 3 mois encore, ma mère, si forte et si guerrière, a fondu en larmes en me voyant debout, enfin. Elle pleurait tout en me filmant et en s'épanchant auprès du prothésiste. « Je suis émue. Mais vous savez, c'est comme voir mon enfant marcher pour la première fois, une deuxième fois. » L'émotion m'a submergée, moi aussi. J'ai commencé à faire quelques pas avec un déambulateur, et le public en délire, constitué de ma mère, s'est mis à applaudir, tout en demandant au prothésiste, de plus en plus gêné, s'il ne me trouvait pas furieusement sexy. Mon couple avec Grace n'a pas survécu. J'ai failli tout quitter pour m'installer loin du tumulte des grandes villes. En me baladant dans Barcelone, j'avais l'impression que tout le monde portait une bombe. J'ai compris que je souffrais d'un syndrome de stress post-traumatique sévère lorsqu'un feu d'artifice a été tiré. En entendant les explosions, j'étais convaincue que nous allions tous mourir. Alors j'ai enfin accepté de me faire aider. J'avais besoin d'entamer le deuil de ma jambe. Ça n'a pas été facile, et les attentats qui ont touché Paris, Nice et ma ville de Barcelone en 2015 ne m'ont pas aidé à aller de l'avant. La route est longue, je n'y suis pas encore, mais je me rapproche de l'acceptation. Peut-être que cette aventure spatiale me permettra un nouveau bond en avant. C'est en tout cas ce que j'espère. Mais cette histoire n'est pas que plombante. Alors, je voudrais pour finir évoquer quelques notes positives. Tout d'abord, vous dire que je suis retournée à Boston à 2 reprises. La première, c'était pour témoigner au procès. Je suis heureux de l'avoir fait et d'avoir pu rendre hommage à tous les héros anonymes qui ont œuvré ce jour-là. La deuxième, c'était il y a 3 ans. Je voulais exorciser toutes mes peurs d'un seul coup, je me sentais prêt. Il faisait un temps sec, magnifique, comme en 2013. Ethan était à mes côtés, comme en 2013. Alors quand le signal du départ a retenti, j'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande inspiration et je me suis lancée. Je n'ai pas regardé mon temps de course, il n'avait aucune importance. Ce qui en avait, c'était ce qui se passait autour de moi et aller au bout cette fois-ci. Je me souviendrai longtemps des visages, des encouragements, des sourires. À l'arrivée, l'émotion était intense tandis que le public applaudissait, car je n'étais pas le seul survivant qui prenait sa revanche en ce matin d'avril. Mes parents, mon frère, ma sœur, tous étaient là. Lorsque j'ai passé la ligne d'arrivée, ma mère m'a sauté au cou alors même que j'étais suant et dégoûtant. Puis elle m'a dit simplement « Tu l'as fait, bravo mon fils !» Dans son regard, j'ai vu défiler ces 4 années de combat pour reprendre le cours de ma vie. Et dans mes yeux, il y avait de la joie pure. Et un peu de fierté aussi. La terreur n'avait pas gagné. J'avais gagné. Je me suis retournée. Ma chirurgienne était là. Elle souriait. Pour elle aussi, cet attentat reste un traumatisme. Elle n'a pas quitté l'hôpital pendant 10 jours, enchaînant les opérations difficiles. Je lui ai tendu la main. Elle m'a pris dans ses bras. Et puis il y avait Andrew. J'avais réussi à ne pas pleurer jusqu'alors, mais en le voyant, je ne suis pas parvenue à contenir mon émotion. Andrew, cet inconnu qui m'a sauvé la vie. Ce lien invisible qui nous tient, c'est quelque chose d'un peu magique. Alors je me suis jetée dans ses bras et je l'ai remercié encore et encore. Il m'a regardée dans les yeux et il m'a dit, avec un grand sourire embué, « Didn't I promise you would be okay ?» Nous avons ri, puis mon frère a sorti des bières fraîches et dans le soleil aveuglant de Boston, nous avons trinqué à ma deuxième vie. Espace, ton univers impitoyable. La station spatiale internationale mesure 109 mètres de long. C'est le plus grand objet jamais envoyé dans l'espace. Le coût d'un uniforme d'astronaute de la NASA est de 12 millions de dollars. Imaginez la note de pressing. Grâce à sa très forte gravité, Jupiter attire et absorbe une bonne partie des astéroïdes et comètes qui pourraient menacer la Terre. Beau travail, Jupiter.